Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir, ravie de vous retrouver un peu plus tard que d'habitude, c'est vrai, mais on se retrouve tout de même pour un moment d'échange et de partage. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour parler de vous, de votre vie, de ce qui vous préoccupe. Ensemble pour se poser peut-être deux questions. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller mieux? Et qu'est-ce qui dépend de vous et que vous pourriez changer? Des questions qui parfois peuvent déclencher un déclic nécessaire pour avancer. Alors si vous avez envie de parler, ce sera appelez-moi au 3921. Cindy et Nicolas sont prêts à vous accueillir pour vous guider jusqu'à moi. Et puis si vous préférez participer aux échanges par SMS, eh bien vous faites le 73921, suivi du menu et de votre message. Enfin, vous savez que vous pouvez nous contacter à tout moment par mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. C'est Romain qui réalise notre émission ce soir.
Sur Europe 1, vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Une émission que nous débutons avec l'appel de Marie-Odile. Bonsoir à vous, Marie-Odile.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène à moi ce soir?
Alors, moi, ce serait pour parler, en fait, d'une situation dans le cadre de violences conjugales.
Oui.
Que j'ai subie, en fait, pendant de nombreuses années, pendant quasiment une vingtaine d'années, où, effectivement, en fait, tout s'est installé doucement, mais sûrement. Effectivement, le jour où je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard.
C'est-à-dire, comment ça a commencé? Est-ce qu'au départ, c'était un mariage d'amour?
Pour moi, oui.
Pour moi, oui.
Pour moi, oui. Je pense qu'après, de son côté à lui, au jour d'aujourd'hui, j'ai des gros doutes. Hein. Mais effectivement, ça a commencé effectivement par des petites réflexions, des humiliations, des insultes. Effectivement, j'ai mis ça sur le compte qu'il était fatigué, des soucis au travail. Et plus ça allait dans le temps, et en fait, et plus il devenait violent. Avec le temps, effectivement, j'ai découvert aussi que sa consommation d'alcool, donc qui expliquait aussi sa violence.
Souvent, c'est lié, oui.
Et effectivement, c'était quelqu'un qui était beaucoup, en fait, dans la maltraitance, mais psychologique. Et effectivement, quand à l'extérieur, on parle effectivement de ce qu'on peut vivre à l'intérieur, on ne vous croit pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens, en fait, comme s'ils avaient besoin de preuves, en fait. Vous n'avez pas de bras cassés, vous n'avez pas de bleu sur le visage. Bah, et lui, à côté, enfin, comme beaucoup d'autres, finalement, à l'extérieur, paraissent pour des gens très bien.
Souvent, c'est le cas. Oui, vous avez remarqué aussi ça. C'est pour ça que les autres ont tellement de mal à comprendre. C'est que souvent, ils disent, mais on n'aurait jamais imaginé ça.
Non. Mais souvent, ces personnes-là sont démasquées, effectivement, quand il arrive des choses malheureusement dramatiques. Moi, aujourd'hui, je voudrais alerter, effectivement, sur le fait que quand il y a des signes, quand il y a des alertes, à un moment donné, il faut qu'on arrive quand même à nous écouter. Parce que moi j'étais quand même sérieusement violentée, hein, que ce soit psychologiquement ou sexuellement, où il m'imposait clairement des viols et j'avais pas le choix que de subir. Malheureusement, j'ai deux enfants qui sont là au jour d'aujourd'hui pris dans tout ça.
Pourquoi vous dites que je n'avais pas d'autre choix que de subir?
Parce que je ne pouvais pas partir. Il faisait tout pour pas que je parte, de toute façon. Il m'a dit que de toute façon, je serais incapable de partir, que je ne pouvais pas être capable de me débrouiller toute seule. Mmh. En fait, à un moment donné, vous avez tellement manque de confiance en vous qu'effectivement...
Sous l'emprise totale, quoi.
L'emprise totale, c'est tout à fait ça. Mmh. Et vous êtes coupé de toute activité, vous n'avez plus d'amis autour de vous. Il a essayé de me couper de mon travail, donc effectivement, ça, par contre, j'ai jamais effectivement laissé mon travail.
Heureusement.
Mais par contre, lui, il se rendait sur mon lieu de travail pour vérifier si j'étais bien.
Et ah en oui, fait, jusque-là. Ah
oui. Oui. Où il sortait de son lieu de travail pour vérifier si j'étais à la maison. En fait, je n'avais pas de contact avec l'extérieur. Pour moi, ça restait malgré tout un père plutôt bienveillant, parce que pour moi, ça pouvait être un mari violent, mais un bon père. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, effectivement, je remets en question aussi. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'alerte sur l'état de mes enfants aussi, hein, qui subissent des choses et de la maltraitance, de la négligence. Et malgré toutes les preuves, effectivement, que j'ai pu avoir à l'appui, hein, où les services sociaux m'ont dit clairement, on ne veut pas voir.
Attendez, vous allez un peu vite, Marie-Odile, pour qu'on arrive à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, vous avez quand même mis un stop à ça? Vous avez divorcé? Vous êtes partie?
Oui, j'ai divorcé parce que j'ai compris que ce que je vivais, finalement, n'était pas normal.
Effectivement, mais comment vous avez réussi à partir alors?
Ah ben j'ai en fait on s'était parti sur une grosse dispute qui était extrêmement violente et j'ai maintenant faut qu'on s'arrête là. J'ai dit moi je m'en vais. J'ai rapidement saisi un avocat et engendré la procédure de divorce.
Les enfants avaient quel âge?
Les enfants étaient petits à ce moment-là, ils avaient 13 et 10 ans.
13 et 10, d'accord. Et donc vous êtes partie avec elle?
Non, parce qu'effectivement pour moi il restait un père quand même bienveillant malgré tout. Donc on est parti sur une garde alternée.
Mais vous êtes, vous dites, on est parti avec l'accord d'un juge. Est-ce que c'était stipulé quelque part, ça?
Non, j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant. En fait, j'ai commencé à raconter mon histoire en fait il y a 2 ans, quand moi-même j'ai été chercher les services sociaux pour aller vérifier un petit peu ce qui pouvait se passer parce que par rapport à mes enfants qui allaient mal. J'ai ma fille qui est descendue à 34 kilos.
Donc c'est ça. Si je comprends bien, il y a 2 ans vous vous séparez. Et là. Garde partagée, c'est quoi, une semaine chacun?
C'était une semaine chacun. Maintenant, depuis un an, c'est lui qui a récupéré la garde complète.
Pour quelle raison?
Parce que les services sociaux ont estimé que c'était un père bienveillant.
Oui, mais et alors vous n'êtes pas une mère bienveillante?
Pardon?
Vous n'êtes pas une mère bienveillante, vous?
Non, on a estimé que je pouvais représenter un danger pour les enfants.
Pour quelle raison? Quels sont les arguments?
Ben, c'est qu'il n'y en a pas dans les rapports. Or, les rapports, effectivement, nous, on a demandé une contre-enquête qui a été refusée parce qu'il y a plein d'éléments qui sont faux. Alors, à un moment donné, tout ça parce que les enquêtes sociales ont refusé de regarder les pièces et les messages qu'ils pouvaient envoyer. Il avait même des messages où il incitait mes enfants à fuguer de chez moi, où il les attendait à côté de chez moi. On voit très bien la manipulation du père. Mais j'ai eu pas mal d'absentéisme à l'école.
Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez les services sociaux? J'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse...
Eh bien justement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, moi, on m'a reproché clairement de trop vouloir en fait le bien-être de mes enfants. Jamais j'aurais cru qu'on pouvait me reprocher une chose pareille.
Mais ça n'a pas de sens, effectivement.
Non, ça n'a pas de sens. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve face à un mur. Je ne sais pas comment sortir mes enfants de cette situation. J'ai des enfants qui vont quand même mal.
Alors voilà, expliquez-moi plus précisément, qu'est-ce que vous avez vu se dégrader là depuis quelques mois alors?
Alors, depuis quelques mois, en fait, moi, ça fait déjà 2 ans que j'alerte, en fait, sur l'état de ma fille, ou notamment la plus grande, avec une perte de poids allant jusqu'à 34 kilos.
Mais voilà. Vous les voyez quand, vos filles, là?
Un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires.
Ok. Et donc, et est-ce qu'elles vous parlent, elles?
Le peu de choses qu'elles me disent, c'est souvent des sous-entendus. J'arrive pas à creuser plus. Et souvent, elles s'arrêtent de parler.
Donc vous ne pouvez que supposer ou interpréter les choses sans information concrète.
Non, moi je suis allée voir des médecins pour effectivement comprendre. Effectivement, par contre, la perte de poids a été quand même constatée quand même par plusieurs personnes, même par l'établissement scolaire qui s'interpellait effectivement de l'état de ma fille qui se dégradait. Où ils disent même qu'elle rasait les murs au collège, elle était tout le temps toute seule. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, ma fille, en fait, a la tête pleine de poux. Et la coupe de toute activité scolaire, en fait, elle n'a plus de sortie, elle n'a plus de vie d'adolescente de son âge, en fait, avec des enfants de son âge. Tout ce qu'elle fait, c'est en présence avec le père. Les services sociaux ont trouvé que c'était bien, que le père était bienveillant.
Elle a quel âge? Elle a 18 ans, c'est ça?
Eh bien, le problème, c'est qu'elle arrive à 18 ans. Et là, on est en train de me dire que je ne peux plus rien faire pour ma fille.
Ben, c'est surtout que elle va pouvoir, elle, se prendre en charge et porter plainte ou partir s'il y a un problème.
Alors le problème, c'est qu'il y a une petite sœur derrière, donc je ne suis pas sûre qu'elle fasse quoi que ce soit. Et elle m'a bien dit, quand on est menacé, on ne parle pas. Effectivement, moi, il m'a menacé aussi pendant de nombreuses années pour pas que je parle. Moi, je vois des choses dans la situation de ma fille où moi, je me revois, en fait, à vivre la même chose.
Et la petite, elle va comment? Enfin, la petite, la plus jeune, parce qu'elle est quand même... Elle a quoi, 14 ans, 15 ans?
Elle va avoir 15 ans, la plus jeune, oui.
Et alors, comment va-t-elle, elle?
Elle, c'est complètement différent. Elle, autant il a beaucoup d'emprise sur la grande. Par contre, la petite est complètement livrée elle-même. Hein. Notamment, il a fait faire des soirées en fait entre jeunes de 14 ans. Donc, mais il n'est pas rentré de la nuit. Donc, les jeunes se sont alcoolisés. Enfin, ils n'ont que 14 ans. Il y a un soir où effectivement, il a fini par rentrer quand même. Il a mis tous ces jeunes adolescents à la rue, alcoolisés.
Mais qui vous a raconté ça?
Eh ben moi, je l'ai su par ma fille parce que moi, je travaille de nuit, en fait. Et elle m'a appelée, en fait, à 3h30 du matin parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Ça, c'est pareil. Ça a été signalé aux services sociaux. On m'a dit que ce n'était pas grave. Seulement qu'il a été menacé, la maman, quand même, qui a recueilli tous les ados en pleine nuit. Et donc, voilà, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle ne veut pas parler, elle non plus. Donc face à quelqu'un qui menace tout le temps tout le monde, ça me paraît compliqué de parler. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaie de démontrer des faits que personne n'a voulu voir.
Mais vous avez une avocate, j'imagine, dans ce conflit
depuis
le début.
Oui, oui.
C'était un homme ou une femme ?
C'était une femme qui m'avait été conseillée par France Victime.
Et alors justement, qu'est-ce qu'elle dit tout ça ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures dans votre histoire.
Eh bien, mon avocate, elle a amené tous les faits. Hein. Elle a bien argumenté là-dessus. Je n'ai rien à reprocher par rapport à son travail. Le problème, c'est qu'on avait les enquêtes sociales contre nous. Et quand vous avez les enquêtes sociales contre vous, en fait, vous avez rarement en fait, la possibilité en fait, de pouvoir obtenir gain de cause.
Et selon elle, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir les enquêtes sociales contre soi ? Qu'est-ce qui fait balancer ces fameuses enquêtes ?
Elle n'a pas d'explication à ça.
C'est dommage, c'est quand même un peu son métier. Hein.
Parce que le problème, en fait, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte du tout des faits. Mais par contre, ils se sont occupés que des dires du père qui ne sont même pas vérifiables, en fait. Et tous les faits, en fait, n'ont pas été vérifiés. Donc, effectivement,
si c'est le cas, il faut les faire vérifier. Pourquoi elle ne le fait pas ? Pourquoi elle ne demande pas une contre-enquête et des vérifications de faits ?
La contre-enquête a été refusée par la juge.
Ah oui, alors là... Oui. Et vous, est-ce que vous êtes en lien avec ce monsieur encore, avec votre ex-mari ? Est-ce que vous vous parlez ?
On est obligé de rester en communication quand même parce que les enfants sont quand même en garde quand même malgré tout, avec l'autorité parentale partagée. Mm-hmm. Seulement que, enfin, moi, il m'informe de plus rien. Donc du coup, moi, c'est pareil, ça a engendré quand même plusieurs dépôts de plainte parce qu'il ne respecte absolument pas le jugement.
C'est-à-dire, il fait quoi ?
Ah ben moi, récemment, il a été faire aussi poser un implant contraceptif à ma fille. Seulement que le jugement dit bien que tout ce qui est santé scolaire, activité, en fait, il faut l'accord des deux parents. Sauf que, en fait, moi, je l'ai su en fait par ma fille une fois que l'implant a été posé. Je ne l'ai pas su avant. En fait, il m'informe plus de rien du tout. Il a coupé toute communication avec moi, donc je ne sais plus ce qui se passe du côté des filles, en fait.
Oui, donc il n'y a pas de communication.
Non, non. Et c'est ce que mon avocate a essayé de démontrer aussi par le biais des messages.
C'est là où je ne comprends pas que ça ne fasse pas effet, puisqu'elle vous dit qu'elle a essayé de démontrer, mais c'est une preuve. Enfin, voilà, de fait, il n'y a pas de communication.
Ah oui, elle a emmené des messages, elle a emmené des mails, elle a emmené même des messages des professeurs qui s'inquiétaient pour les enfants. Aucune pièce n'a été en fait tenue... tenu en compte. En fait.
Et votre fille 18 ans, là, quand vous me parlez de son poids, c'est à vous craignez qu'elle soit en train de tomber dans l'anorexie ?
Ah ben, il y a eu un moment où, de toute façon, c'était ce qui se passait. Hein, parce que 34 kilos, elle était limite à l'hospitalisation, parce que moi, je l'avais emmenée chez une pédiatre. Si elle ne comprenait pas non plus, effectivement, tous les symptômes de Maëva, effectivement, elle était limite de l'hospitalisation.
Et est-ce que chez vous, elle mange les week-ends ? Elle se nourrit correctement ?
Alors maintenant, elle se nourrit un petit peu mieux, mais ça a été compliqué pour reprendre une alimentation.
Qu'est-ce qui a changé alors ? Pourquoi ça irait mieux d'un seul coup ?
Moi, je pense qu'elle fait plutôt semblant plutôt qu'autre chose. Parce qu'elle reste toujours très isolée, elle n'a pas aucune vie sociale, aucune. Donc effectivement...
Est-ce que vraiment vous le savez ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interprétations dans ce que vous me dites. Vous croyez que, vous imaginez que, ou vous le savez vraiment ?
Parce que parce que c'est elle. C'est elle qui m'en parle.
Parce que vous me dites qu'elle ne vous dise pas tout, qu'elle se taise, et comme vous n'êtes pas avec elle à temps plein, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, quoi.
Ah ben, de toute façon, il y a forcément des choses que je ne sais pas, ça c'est sûr. Après, de temps en temps, elles arrivent à lâcher quand même des choses. Mais c'est vraiment de temps en temps.
Est-ce que vous les questionnez beaucoup ou au contraire vous laissez faire et vous espérez qu'elles vont s'ouvrir un peu à vous ?
Quand j'arrive à leur tendre une perche, je vois un petit peu où ça peut mener. Après, les ayant un week-end sur deux, moi j'ai pas envie qu'elles viennent ici en disant que ça va être l'interrogatoire.
Oui, bien sûr, vous avez
quand
raison.
Quand elles viennent ici, il faut qu'elles soient bien. À un moment donné, il faut qu'elles soient dans un cadre où effectivement on va faire des activités, où elles peuvent sortir, avoir une vie en fait à peu près normale, sans pour autant avoir en fait une série de questions avec ce qui se passe, le comment, le pourquoi. Et à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, elles finiront peut-être par dire des choses, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais.
Est-ce que vous leur avez dit qu'elles peuvent se confier en toute confiance à vous et que...
Bien sûr, je leur ai dit, bien sûr.
Oui. Bon, c'est important ça, qu'elles sachent quand même que vous n'êtes pas en train d'attendre des biscuits pour vous venger, quoi, mais que vous êtes aussi là pour elles et pour les écouter, les comprendre et ne pas les juger.
Ah oui, mais ça, elles ont bien compris. On a discuté toutes les trois, elles le savent, hein, que de toute façon, si elles ont besoin, je serai toujours là pour elles et qu'il n'y aura pas de souci, quoi. Mais effectivement, c'est des conséquences, en fait, de la violence conjugale. En fait, bah, même quand vous partez, finalement, ça ne s'arrête jamais. Si vous ne vous pliez pas à ce que lui veut, en fait, eh ben, ça continue. Ça
parce
continue
que le souci, c'est que vous n'êtes pas partie dans le sens où il y a encore ce lien avec les enfants, évidemment. La vraie rupture, c'est quand il n'y a plus aucun lien.
C'est ça.
Et malheureusement, quand il y a un lien parental et qu'il est toxique, ce lien, forcément.
Il est toxique, est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il y a les enfants dedans.
Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Est-ce qu'il a trouvé une autre femme?
Oui, il a une compagne depuis qu'on est séparés.
Ah. Et comment ça... Est-ce qu'ils vivent ensemble?
Alors, ils sont très souvent ensemble. Après, elle a sa maison à elle. Mais elle est très souvent chez lui, par contre.
Et comment ça se passe avec vos filles? Elles vous le disent, ça?
Bah, pas bien.
Pourquoi?
Pas bien, parce qu'effectivement, elles me disent bien que le père, en fait, critique sa compagne auprès des enfants et auprès de la famille. Et qu'effectivement, il fait aussi la même chose, en fait, du côté de la compagne. Enfin, moi, c'est ce qu'il a fait aussi, moi, quand j'étais mariée, quoi.
Oui, continue. Il a trouvé une autre proie.
Oui. Oui. L'histoire se répète, finalement. L'histoire se répète.
Bon, ce qui me paraît essentiel, quand même, c'est de pouvoir être vigilante sur ce qui peut se passer entre lui et vos filles. C'est-à-dire que vous avez quand même mentionné tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des violences avec elles. Vous croyez que c'est le cas encore maintenant ?
Ah ben, des violences, de toute façon, à partir du moment où effectivement il y a cette emprise psychologique, oui, de toute façon, c'est quelque chose de violent, puisqu'en fait, elle n'a pas de sortie, en fait. Sa seule sortie au jour d'aujourd'hui, c'est le lycée.
Est-ce qu'il les a déjà touchées? Est-ce qu'il a déjà levé la main sur l'une d'elles?
Elles m'en ont pas parlé. Elles m'en ont pas parlé.
Et quand vous étiez ensemble à l'époque?
Alors moi, il tapait surtout dans les murs et dans les portes, jusqu'à un moment donné, effectivement, où il m'a coincé dans la salle de bain.
Donc c'était vous qui preniez, mais pas les filles?
Ouais. Oui.
Parce que ce qu'il faut qu'elles sachent quand même, j'ai bien compris qu'il y avait la petite sœur derrière, mais votre aînée, c'est qu'à 18 ans, elle peut déposer de main courante ou porter plainte, hein, s'il y a quoi que ce soit.
Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Après, quand vous êtes sous emprise, bah, c'est compliqué, finalement.
Oui, mais
c'est très compliqué de faire les démarches.
Le seul moyen de sortir de l'emprise, un jour, c'est d'arriver à dire non. Stop, ça suffit. Sinon, ça ne s'arrête jamais. Apprendre à dire non.
Parce qu'il ne laisse aucune liberté, en fait. Hein. Donc, plus ça va, en fait, et plus la coupe du peu de copines qu'elle avait. Donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, ouais, elle n'a plus personne autour d'elle. Donc, sa seule sortie, finalement, c'est le lycée. Il lui a fait arrêter les activités sportives, hein, même à ma fille la plus jeune. Il reste quand même dans le contrôle de tout. Et là, le souci qui se pose, c'est que ma fille, en fait, envisage des études supérieures pour la rentrée.
J'allais vous demander justement ce qu'elle compte faire après. Ouais.
Une faculté de droit à la rentrée. Seulement que lui s'y oppose et refuse de la laisser partir.
Mais il s'y oppose, pourquoi elle aurait besoin de son accord?
Il ne veut pas qu'elle parte. Donc, il fait tout pour ne pas qu'elle parte. Et moi, de l'autre côté, moi, j'essaye, en fait, de la faire partir parce que c'est sa porte de sortie, en fait, à ma fille.
Bah, évidemment. Alors, partir, on parle là de situation géographique. C'est elle part parce que sa fac n'est pas dans la région, c'est ça?
Alors, il y a une fac dans la région, mais elle ne souhaite pas rester sur la région.
Oui, mais
elle veut partir ailleurs.
Bah, je pense qu'elle a entièrement raison et que c'est effectivement, vous avez raison, c'est sa porte de sortie. Mais de quel droit il s'oppose à ce qu'elle parte? Elle a 18 ans, hein.
Donc, mon avocate, effectivement, me disait que pour ma fille, 18 ans, on ne pouvait plus rien faire juridiquement. On avait déjà fait le maximum. Et je me dis, pourtant, la loi dit bien que quand on est témoin de violence, quelle que soit la forme, on doit essayer faire des signalements. Donc, moi, je suis comme allée voir un autre avocat pour avoir un autre avis, quand même.
Oui, vous avez bien fait.
Qui, lui, par contre, n'en dit pas du tout la même chose.
Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Lui, justement, le fait qu'elle ait 18 ans, on va pouvoir encore agir sur certaines choses. Et le fait qu'il s'oppose à l'orientation et aux études supérieures de ma fille, ça va être un nouvel élément pour ressaisir le juge à la rentrée.
Ben voilà, effectivement. Mais en même temps, je n'arrive pas à comprendre. S'opposer, ça veut dire quoi? Une fois que s'opposer à une enfant qui est majeure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher par terre pour l'empêcher de partir? Enfin, je vois pas bien.
On a beau dire que quand on est majeur, on peut partir librement. Si c'était réellement le cas, c'est si facile, on n'aurait aucune femme, en fait, dans situation de violence conjugale aujourd'hui. Parce que je pense qu'elles partiraient toutes.
Oui, sauf que là, c'est pas sa femme, c'est sa fille. C'est pas la même chose. Alors, est-ce qu'il y a une question d'argent là-dessous? Est-ce qu'il y a une question d'argent là-dessous?
Ah ben, de toute façon, oui. Il y a une question d'argent dessous aussi, de toute façon, oui.
D'accord. En tout cas, c'est intéressant que vous ayez vu un autre avocat et vous voyez qu'il vous ouvre aussi d'autres portes, lui. Il me semblait bien quand même que c'était un peu restreint, là, ce qu'elle vous disait, elle.
Ben moi, j'ai trouvé aussi, parce que je me dis, ça ne concorde pas forcément à ce qu'on peut entendre au niveau de la loi. Donc, j'ai dit, tant pis, je vais voir quelqu'un d'autre, un autre avocat, puis je verrai bien ce que lui va m'en dire. Et là, on est en train, en fait, de se repréparer, en fait, à réattaquer, en fait, voilà, en audience à la rentrée, quoi.
Et ben c'est très bien, justement, parce que je sais à quel point sortir d'une prison, parce que c'est une prison physique et mentale, c'est difficile. Sortir de l'emprise, c'est difficile, mais à un moment donné, il faut vraiment apprendre à dire non. Il faut faire ce premier déverrouillage de porte en disant non, stop. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, quoi.
Non, tant que, et justement, tant qu'on le, c'est ce que France Victime me disait aussi, hein, tant que tout le monde le laissera faire, il continuera.
Et voilà.
Donc, effectivement, on voit bien le marchandage qu'il peut faire, le chantage à l'argent qu'il peut faire, toutes ces manipulations par message, hein, qu'il peut faire. Si à un moment donné, enfin, quelqu'un avait voulu regarder un petit peu les messages et regarder un petit peu ce que les médecins en disaient, je pense qu'on aurait pu cerner la personnalité de monsieur quand même.
Mais ce nouvel avocat-là, il s'est plongé un petit peu dans ces documents qui n'ont pas été vus, d'après vous ?
Ah, lui, il ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été pris en compte.
Ah,
lui,
ça,
il n'a pas compris.
Bah, oui, non. Évidemment.
Même les messages où il incite ma fille à la fugue, il m'a dit, mais même ça, comment on n'a pas pu entendre des choses pareilles, quoi.
Et votre fille, sur un plan purement financier, matériel, qu'est-ce qu'elle envisage quand elle dit « je veux partir faire une fac, peut-être à Paris ou ailleurs, j'en sais rien », elle envisage de vivre où et de payer ça comment ?
Alors, pour le financement, moi, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu comment financer son appartement pour ses études. Mmh. Donc déjà, elle a droit à, logiquement, enfin moi, j'avais commencé en fait un dossier social étudiant, c'est pour faire des demandes de bourse.
Mmh.
Lui, en fait, il a refusé de me communiquer les informations, donc il m'a coupé en fait dans mes démarches. Et là, il vient de me dire qu'en fait, lui n'avait rien fait. Donc,
quelles informations vous manquent ?
Eh bien, il me manquait des informations en fait, pour compléter le dossier.
Mais quel genre d'informations ?
La référence fiscale, il me fallait, du père aussi. Donc, il a refusé de me les donner. Donc, je n'ai pas pu en fait, finaliser le dossier. Lui, il m'a dit qu'il allait le finaliser. Donc, je lui ai donné mon numéro,
il ne le fera jamais,
référence.
Il ne le fera jamais. Mais oui.
Eh bien, hier, il m'a dit que le dossier ne l'avait pas fait.
Bah oui, forcément.
Les clôtures étaient quand même au 15.
Ça s'oppose. Bah oui, c'est ce qu'il ne veut pas. Donc, il ne va pas le faire, forcément.
C'est ça. Donc, l'avocat m'a dit, justement, il m'a dit, ben, ça va être des preuves supplémentaires. Il m'a dit, ça va falloir me les garder absolument, par contre. Ça va montrer, effectivement, que lui s'oppose aux études de votre fille et ça, il n'a pas le droit.
Bon, c'est bien que vous soyez prise en main par quelqu'un qui est un peu plus sévère, là, plus costaud, parce que quand même, il y a des limites à mettre. Et comme vous dites si bien, tant que personne ne l'arrêtera, il ne s'arrêtera pas.
Ah non, ben non, pour l'instant, enfin, il est vraiment dans la toute puissance. Et c'est vrai que les enquêtes sociales lui donnent complètement raison, en fait. Donc, pour lui, si les enquêtes sociales lui donnent raison, pourquoi ne pas continuer jusqu'à aller me définir comme un profil psychopathologique, enfin d'une psychologue qui ne m'a même pas comme patiente. Enfin, il y a des choses qui me paraissent quand même un petit peu aberrantes quand même dans ce rapport. Donc là, j'essaye en fait, donc là, je me suis mise en lien avec une éducatrice spécialisée pour voir elle aussi ce qu'elle en pensait de la situation. Donc elle, clairement, on est clairement dans de la violence psychologique. Hein.
Mmh.
Donc là, maintenant, elle m'a dit, là, il faudrait essayer d'interpeller le procureur, renvoyer un courrier au procureur avec tous les messages et tous les éléments que vous avez.
Oui, c'est ça. Mais quelle force, quelle énergie il vous faut pour combattre tout le temps comme ça, hein ?
Ah, mais c'est que là, je commence effectivement à m'épuiser aussi. Hein.
Ben, y a de quoi ?
C'est ce que je lui disais, hein. Physiquement, psychologiquement, c'est compliqué pour moi. Mais je lui dis, je ne peux pas baisser les bras parce que j'ai mes enfants.
Exactement. En même temps, elles sont votre force.
Ben, c'est ce qui me fait avancer parce que je sais pourquoi je fais tout ça.
Oui.
Et moi, je veux leur faire comprendre aussi à mes enfants que seul, on ne peut pas s'en sortir, effectivement, d'une emprise comme ça. Mais par contre, moi, je ne veux pas qu'elles subissent ce que moi, j'ai subi.
Mm.
Et leur faire comprendre que ce genre de relation n'est pas normal.
Ben, je pense qu'elles l'ont compris. Malheureusement, à leur dépend, hein, et aux vôtres. Mais c'est surtout qu'il faut, il faut stopper ça au plus vite. Non seulement c'est pas normal, mais il faut le refuser.
La seule porte de sortie, finalement, effectivement, ça a été, ça va être l'orientation de ma fille.
Pour elle, c'est ça, oui.
Pour elle, ça va être la seule, en fait. Donc, mais c'est pareil, elles avaient demandé à revenir à la maison, ça n'a pas été entendu par les enquêtes sociales non plus. Enfin, les enquêtes sociales ont clairement demandé à ce que ce soit le père qui ait la garde. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses, effectivement. Alors, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, aller contrer des enquêtes sociales, comment on peut faire? Ça, c'est pareil, j'ai pas de réponse à ça.
Parce qu'il y a quand même votre nouvel avocat ne peut pas répondre à ça?
Non. Non.
Ah bon?
Non.
J'en sais rien. Je ne suis pas avocat, donc c'est pas moi qui vais vous répondre non plus. Mais qu'est-ce que vous envisageriez si votre fille aînée part faire des études et que ça fonctionne, que vous arrivez à mettre ça en place, est-ce que vous seriez prêt de vous à récupérer la seconde?
Ah oui, donc si elle le demande. Parce que c'est pareil. Donc, c'est pareil pour moi, ma seconde, ma première avocate me disait qu'effectivement, pour ma fille, on ne pouvait plus rien faire non plus. Donc voilà, c'était fini aussi pour elle. Sauf nouvel élément. L'avocat que j'ai été voir, lui, par contre, n'a encore pas le même discours.
Vous voyez, il donc, m'a dit. Bah ouais, forcément, oui. Ouais.
Lui me dit que, par contre, si ma fille, effectivement, demande à revenir à la maison, à l'âge où elle est, elle sera forcément entendue.
C'est ce que j'allais vous dire. Oui, à 15-16 ans, effectivement, sa parole a plus de poids. Bon, en tout cas, heureusement que vous avez cet autre avocat, hein, vraiment.
Parce que là, c'est pareil. Donc, j'ai plein de messages où je lui dis qu'effectivement, ma fille veut recommencer des cours de sport, où il s'oppose même à l'inscrire à des cours extrascolaires. Mais par contre, il allait chercher entre midi et 13h pour aller faire du sport. Donc, elle ne mangeait pas, en fait. Les services sociaux ont trouvé que c'était un père qui était bienveillant. Bon, soit.
Il y a quelque chose qui dysfonctionne quelque part, là, c'est évident. Mais bon, une fois de plus, moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais tout ce que
Moi, lors des enquêtes, par contre, j'avais signalé qu'avant de partir, effectivement, quand ma fille, elle avait 11 ans et demi, et en fait, il a regardé sous la douche, se doucher, quoi. Ça avait été dit aussi aux enquêtes. Elles m'ont dit que ce n'était pas possible.
Oui, je vous dis, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Simplement, moi, mon conseil, c'est de ne rien lâcher et de vous faire aider par ce nouvel avocat qui m'a l'air bien plus battant que l'autre, hein, pour ça. Parce que là,
j'en ai l'impression
une fois que la première sera sortie là, et si vous récupérez la seconde, ça y est, les liens vont pouvoir vraiment être distendus. Ça sera quand même moins difficile, je pense.
Oui, pense que l'urgence, ça va être déjà sortir la grande.
Exactement, parce que là c'est imminent, vous voyez, c'est, on parle de quelques mois, là, même pas. La rentrée, ça arrive, c'est maintenant que ça se met en place, quoi.
Donc, ma crainte, effectivement, c'est que ma fille n'ait pas de scolarité à la rentrée aussi, hein, de toute façon, parce que s'il a décidé de pas l'envoyer faire ses études, à mon avis, je pense qu'il la retiendra de toute façon. Moi, j'engagerai de toute façon une procédure, il va falloir qu'il s'explique. Hein.
Exactement, oui, je pense que c'est. Là vraiment, maintenant, il ne faut pas lâcher. Il faut le mettre face à tout ça et c'est à lui de lâcher maintenant. Ça suffit, à un moment donné, ça suffit.
Le problème, c'est qu'il n'est pas prêt de lâcher non plus. Donc,
parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas eu affaire à des gens qui lui ont fait lâcher, c'est ça le problème.
Eh ben
il faut
non,
qu'il
parce
ait affaire à plus fort que lui, là, maintenant.
Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'a pas trouvé plus fort que lui.
Ben, j'espère que cet avocat le sera, en tout cas. Vraiment.
En tout cas, lui, il va prendre le dossier en charge et... par contre, je lui ai demandé effectivement quelle issue en fait aura cette audience, parce que j'ai dit, si c'est pour prendre encore un mur, j'ai dit, quel intérêt? Il m'a dit, là, je peux vous assurer une chose, c'est que vous aurez gain de cause.
Alors oui, mais attention quand même, on n'est jamais sûr de rien, c'est quand même le juge au final.
C'est ça.
Mais quand même, il m'a l'air plus combatif et plus investi que l'autre, donc c'est déjà une bonne chose.
Oui, surtout que là, on va sur l'avenir professionnel de ma fille, donc il m'a dit, un juge n'ira jamais à l'encontre de ça.
Bon, bah écoutez, Marie-Odile, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous invite à me rappeler pour me raconter la suite dans quelques temps, à me dire comment ça a évolué pour vous, tout ça.
Très bien, je vous rappellerai.
Et vous êtes une sacrée battante, restez comme ça, vraiment.
Merci.
Bravo à vous.
Je vous souhaite un joyeux anniversaire.
Ah, c'est gentil, merci Marie-Odile, je vous embrasse.
Merci, au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sabine. Tout d'abord, je vais vous souhaiter, avec quelques minutes de retard, un joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. 21. C'est très gentil.
Je vous en prie. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre écoute, hein, vos conseils que vous donnez aux auditeurs ou aux auditrices de la Libre Antenne. Et ils sont très précieux.
Merci.
Donc voilà, je vous en prie. Donc, moi, je souhaiterais avoir votre avis et vos conseils vis-à-vis de la problématique entre le monde du travail et moi. Donc, j'ai entendu partiellement, j'ai raté début hier du témoignage de Romy.
De Romy, oui, on avait abordé ses échecs successifs au travail et voilà. La déplorable voilà. Image d'elle-même que ça lui renvoyait finalement.
Oui, oui. Donc, je me suis reconnue plus ou moins, puisque moi, il s'agit aussi des chèques. Donc, en attendant l'émission, j'ai écrit pour essayer d'être le plus clair possible et un petit peu dans l'ordre. Donc, j'ai 60 ans, presque 61 au mois de juillet, et je suis comptable. Donc, j'ai repris mes études, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac pro, j'avais 43 ans, c'était en 2003.
Ah, c'est courageux, ça, dites-moi.
Oui, et j'avais mes trois filles à charge, puisque mon mari étant décédé, donc j'ai juste seule à les élever, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai obtenu mon bac pro avec mention, donc,
bravo.
Comptabilité. Donc, oui, ça va. J'étais fière de moi. J'avais promis à mon papa et j'ai pu lui dire avant qu'il décède en décembre 2004 ce que je l'ai obtenu en juillet 2004. Donc, c'est quelque chose, une promesse que je m'étais faite et moi et pour. Donc, voilà, ça c'est la partie un petit peu privée. Donc, suite à ça, j'ai eu mon premier CDI en 2005 dans une association à caractère social où j'étais comptable et puis, donc, la directrice a fait couler l'association à elle toute seule. Ah. Oui, au bout de 22 ans, c'était dramatique. Donc,
volontairement ou par incompétence?
Incompétence, c'était une personne qui parlait beaucoup. Alors, elle savait très bien parler, elle pouvait parler pendant des heures, c'est-à-dire qu'elle faisait quasiment du monologue, mais c'est quelqu'un qui... la vérité, vous pouvez me croire, elle s'amusait à parler aux plantes, enfin complètement, elle était à côté de sa plaque, ah oui. Donc voilà, moi je faisais tout le boulot, et puis j'ai eu du harcèlement, je me suis arrêtée un mois, parce que je dormais plus, et après il y a eu licenciement, l'association n'existe plus. Donc j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil de ce licenciement, mais je me suis reprise en main, et donc depuis novembre 2000, j'enchaîne des CDD, ou des missions d'intérim pour divers motifs. Donc voilà, et depuis, donc j'ai changé de département depuis octobre 2018. J'avais fait une candidature spontanée à la mairie de ma commune et il s'avère que la personne que j'ai remplacée, elle a fait une grave dépression et dû à du harcèlement moral d'une de mes collègues. Mmh. Et moi, j'ai subi le même sort et j'ai fait un léger début de burn-out. Mon médecin m'a arrêté, je voulais pas, mais c'est pareil, j'ai perdu le sommeil. Donc, là, ça fait 6 mois.
Donc, rebelote, même histoire, même schéma, quoi.
Pas tout à fait, parce que là, c'était la première fois, je connaissais le domaine de la fonction publique, c'était la première fois, j'étais chargée d'accueil administratif j'étais pas comptable sur ce poste, hein. Mais j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais ça m'a plu, donc si vous voulez, on a profité, parce que j'étais novice dans ce domaine-là, quoi. Et donc, si vous voulez, commander beaucoup le maire, hein, moi, c'est, il n'y a pas qu'à moi que ça arrivait, malheureusement. Donc voilà, et l'an dernier j'ai fait un remplacement que j'avais trouvé sur le site de la fonction publique territoriale, une commune voisine, j'ai fait un remplacement d'un mois. Alors là, j'ai eu la jalousie partout, je suis passée pratiquement partout. J'ai toujours eu de la jalousie de au moins d'une femme, quoi.
Mais jalouse de quoi?
Est-ce que c'est de...
Ah, oula. Allô, allô. Oula là. Allô. Allô. Ah, là, Catherine, on vous a perdu. Écoutez, on passe un peu de musique, Romain, et on voit ce qu'on peut faire pour la liaison téléphonique. Ça marche comme ça? On essaie de vous récupérer sur une meilleure ligne, Catherine, à tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 39 21, 50 centimes la minute.
Alors, est-ce qu'on a récupéré Catherine ? Est-ce que vous êtes là, Catherine ?
Oui, je suis là, Sabine, pardon.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, des problèmes de... Ben, je ne sais pas, c'est que ça le fait à des amis et à moi, mais pas que de mon téléphone. Ça fait comme si le téléportable était dans la baignoire ou sous la douche.
Exactement, d'un seul coup, ça fait un drôle de bruit, assez
oui, fort. Oui, mais ça le fait avec maman, avec mes filles, peu
bon,
importe.
Alors, on va croiser les doigts. Par contre, voilà. Je vais vous mettre à l'aise tout de suite, comme effectivement, il reste peu de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on pose les bases de votre histoire ce soir. Et si vous en êtes d'accord, on poursuit demain. On vous prend en début d'émission demain pour aller plus loin et creuser un petit peu parce que je crains qu'on n'ait pas assez de temps là pour mettre tout à plat. Donc voilà, vous allez me raconter les faits et puis on verra demain pour l'origine de tout ça.
Hein ? Donc voilà. Donc
troisième tentative, pendant un remplacement d'un mois des jalousies, on en était là.
Oui, voilà, là c'est la deuxième, oui, troisième, enfin deux fois en mairie. Donc c'était un CDD d'un mois, il me restait 15 jours à faire. Bon, mon DGS, donc directeur général des services, très très quelqu'un qui était très très droit, enfin voilà, je lui en veux pas à lui puisque j'avais aussi fait je sais reconnaître mes erreurs, hein, donc j'essaie d'être au mieux, mais bon voilà. Mmh. Et donc il m'avait quand même conseillé, c'est pour ça que si vous voulez, j'arrive à prendre suffisamment de recul et à retirer quelque chose de entre guillemets mes échecs. Donc ce directeur m'avait conseillé de mettre mon CV sur le site de la fonction publique territoriale, ce que j'ai fait. Mmh. Et de là, j'ai été appelée donc en février 2022 pour un CDD de congé de maternité, remplacement de congé de maternité, qui m'aurait conduit jusqu'à la fin août. Et donc, un mois de période d'essai renouvelable, donc convoqué par le directeur, des petites remontrances. Non, non, Catherine, ne vous inquiétez pas, rien de grave, ça va et tout. Donc, bon, je le prends bien, quoi, à peu près. Et donc, trois jours avant le 15 avril, j'envoie un mail, et le lendemain, pour savoir mon avenir professionnel. Et le lendemain, j'étais convoquée, c'est la RH qui m'a convoquée, pour un entretien préalable à la rupture d'embauche.
Alors que la veille, on vous dit que tout va bien.
Non, c'était le mois d'avant.
Ah, le mois 15 d'avant.
Oui, parce que j'ai été embauchée le 15 février. Le 15 mars, on m'a dit que bon, ça allait avec mais pas d'inquiétude. Et puis après, donc là, je pense que maintenant, j'ai appris à plus faire confiance à personne dans l'entourage professionnel.
Mais il s'est passé quelque chose pendant ces quatre semaines-là ?
Je ne sais pas, j'avais la gestion administrative du CCAS, c'est une commune nouvelle qui regroupe trois petites communes en campagne. Je ne connaissais pas du tout, donc pas de formation à prendre. Il m'a montré, mais très très vite. Moi, j'avais des lacunes de ce domaine-là. Je tenais aussi l'agence postale et la formatrice. J'ai été formée par deux personnes. Toutes les deux m'ont dit que j'étais capable de tenir une agence postale. Donc là, je sais que tous les reproches qu'il m'a fait pendant l'entretien de fin de contrat, quoi, qui a duré presque 40 minutes, je sais que tout était en partie mensonger, peut-être à part le CCAS qui
était. Donc vous pensez-vous malveillance et jalousie ?
De la part de lui, non, je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal à le cerner, ce monsieur. Toujours est-il que voilà, il y a eu des problèmes à la mairie d'ordre technique. Un samedi matin, donc moi j'appelle le maire, et ce qui est normal, c'est lui qui est responsable des employés communaux et de sa mairie, et le directeur m'a sermonné en disant que fallait pas que j'appelle le maire. Donc là, il faut qu'on m'explique, parce que on fait quoi si on n'a pas d'électricité pour travailler ? Donc voilà, j'ai tout un tas de petites choses comme ça, mis bout à bout, et je me suis défendue, hein, je lui ai vraiment tenu tête, je lui ai regardé droit dans les yeux, et puis j'ai appris à me défendre, et puis voilà, c'était son choix, quoi.
Mais en attendant, le travail s'est arrêté, quoi.
Oui, voilà. Et depuis le 16 avril, donc j'ai été appelée deux fois par deux autres mairies, justement par rapport au centre de gestion. Mais là, j'ai réfléchi, j'ai refusé parce que ça me faisait plus de 50 minutes de route sur des petites routes. Enfin, c'était trop fatigant. Enfin, et puis avec le prix du carburant, donc j'ai dû refuser et, à contre-cœur, quoi.
D'accord.
Et depuis, donc c'est un petit peu long, je suis désolée.
Non, mais je me demande quelle est votre question, parce que là, j'entends pas. C'est pas vraiment ça n'a pas de rapport avec l'histoire de Romy. C'est pas une succession d'échecs, là. Ce sont des situations très différentes à chaque fois.
Bah, pour moi, c'est des échecs, puisque je commence un contrat et je ne le termine pas.
Bah, là, vous me dites que vous avez refusé les deux derniers contrats, en l'occurrence. Donc, c'est pas la même chose.
Oui, non, mais c'était pour vous situer dans le temps.
J'entends que deux fois où il y a eu une répétition, finalement, pour le moment. La première était différente. Il y a eu deux fois dans la mairie où ça s'est mal passé.
Oui, presque trois fois, si je compte le CDD ou la personne de un mois l'année dernière. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi, c'est le but de mon appel, pourquoi ce schéma se... J'ai des emplois de mairie qui sont sur ma route et pourquoi ça se reproduit sans cesse, quoi.
Bon, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment un univers qui est pour vous ? Parce que j'ai l'impression que ça vous plaît pas tellement, cet univers-là, cette hiérarchie-là, cette façon de fonctionner. C'est un peu à l'encontre de ce que vous aimez, de vos valeurs.
C'est vrai que c'est différent, j'entends bien, par rapport à travailler dans le privé, en comptabilité ou en paye. Mais c'est très difficile et compliqué de trouver dans mon département, enfin pas trop loin de chez moi, puisqu'il s'avère que maintenant mon diplôme serait insuffisant alors que j'ai des compétences, puisque je ne veux pas dénigrer du tout les employeurs, mais comme ils ont le choix, donc ils demandent un bac plus 3,
plus
4.
Plus, quoi. D'accord.
Ouais, ils demandent
d'accord. De... Catherine, malheureusement, comme je vous l'avais dit, l'émission se termine, oui. Mais si vous en êtes d'accord, on va développer ça demain.
Oui.
Essayez de trouver ensemble. Oui, il y a un nœud quelque part, mais il n'est pas forcément là où vous pensez. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un schéma répétitif. Là. Il y a peut-être autre chose encore derrière tout ça.
Bah, je pense aussi que ça vient de mots, peut-être de l'échec, de la faillite professionnelle de mes parents qui étaient à leur compte.
On en parle demain ?
On en parle demain.
Rendez-vous, je vous remercie. Je vous embrasse, Catherine.
Je vous remercie. Bonne nuit, bonne soirée. Merci.
Bonne nuit à vous et à demain soir. Notre libre antenne en direct se termine. C'est passé très vite ce soir, c'est vrai. Merci à tous d'avoir été là quand même. Je vous retrouve avec grand plaisir demain soir à partir de 23h cette fois. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Comprendre avec qui parler est important. Savoir avec qui garder le silence l'est encore plus. Passez une très belle nuit et à demain. Il est 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.